En route vers les Paralympiques 2024, c'est une série de 4 émissions où nous regardons ensemble la programmation des Jeux de Paris, tout en nous attardant sur un sport en particulier, en passant du temps avec un ou une athlète, son entraîneur ou sa partenaire d'entraînement. En s'appuyant sur une couverture médiatique accrue, nous souhaitons vous donner le goût de suivre les différentes compétitions et peut-être même d'applaudir les exploits d'athlètes que nous aurons connus davantage. Lors des Jeux de Tokyo en 2021, le paracyclisme avait obtenu 3 médailles sur les 21 du Canada. 4 ans plus tôt, à Rio, cette récolte avait été la plus importante de l'histoire, avec 9. Dans cette émission, nous parlerons avec Sébastien Travers, l'homme en charge du programme de paracyclisme canadien depuis 2016 et entraîneur de l'équipe nationale depuis 2009. Puis, nous découvrirons Alexandre Hayward, jeune paracycliste qui s'impose de façon impressionnante sur la scène internationale. Je m'appelle Yvan Deslauriers et tout ça en route vers les Paralympiques 2024. À cette étape des Jeux, on entreprend pleinement la deuxième moitié du calendrier. Au niveau des débuts et des fins, le para-badminton s'est terminé le 2 septembre. Seul Yuka Chokyo aura représenté le Canada à ces Jeux. Ce qu'il y a de particulier dans son cas, c'est que tout en étant ses premiers Jeux au para-badminton, ce seront toutefois ses 4e Jeux paralympiques. Elle était une triple paralympienne au tennis en fauteuil roulant. Le paracyclisme sur route entreprend ses activités le 4, 3 jours après la fin des épreuves sur piste. C'est le début également des compétitions de para-équitation en dressage et de para-haltérophilie. Le boccia se termine le 5 septembre. L'équipe canadienne est classée au 9e rang. Les grands pays de ce sport étant la Thaïlande, la Corée du Sud et la Grande-Bretagne. D'un point de vue individuel, Alison Levine sera à surveiller. Dans la catégorie BC4, elle est présentement 2e au monde, derrière une Colombienne, Mme Lady Chica Chica. De nombreuses médailles seront décernées lors de cette période de 3 jours, notamment dans toutes les grandes épreuves de paranatation et de para-athlétisme. Le tennis en fauteuil octroiera ses premières médailles le 4 septembre avec la finale du double féminin et la finale du quad. Créer des conditions propices au dépassement de soi, c'est la philosophie de Sébastien Travers depuis qu'il a commencé à entraîner des athlètes vivant avec un handicap. Dès qu'il a commencé à travailler avec cette clientèle, il s'est senti accroché. Selon lui, chaque handicap est différent et apporte plus de défis. Il y a beaucoup de variété dans ce travail. Travers est aussi attiré par l'enseignement. Développer des tactiques, la psychologie et bien sûr, en paracyclisme, tout le côté de la technologie dans l'équipement et l'adaptation. Pourtant, il insiste sur le fait qu'entraîner les para-athlètes n'est pas différent qu'entraîner des athlètes sans handicap. Vous devez garder un esprit ouvert et être ingénieux, a-t-il déjà dit. C'est extrêmement satisfaisant de voir un athlète qui peut avoir de la difficulté à marcher atteindre une vitesse de 60 km à l'heure sur le vélo. Ils approchent beaucoup les vitesses des athlètes sans handicap. Il faut tout un processus pour atteindre ce point. Et le liant de toutes ces approches, c'est l'humour. Mais donnons-lui la parole. Lors de cette émission sur le paracyclisme, la première entrevue se fait avec Sébastien Travers, qui est entraîneur-chef de l'équipe de paracyclisme. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors Sébastien, qu'est-ce que fait un entraîneur-chef de l'équipe paracyclisme à 47 jours des Jeux?
En ce moment, on est en fin de camp de préparation, notre avant-dernier camp avant les Jeux. Donc, on a rassemblé l'ensemble des athlètes qui sont invités à participer aux Jeux paralympiques à Bromont pour un 12 jours d'entraînement, autant sur la piste que sur la route. À travers ces 12 journées-là, il y a évidemment de l'entraînement sur le vélo, mais aussi tous nos spécialistes qui sont présents pour s'assurer du bon état de forme et du bon état de progression des athlètes vers les Jeux paralympiques.
Donc, l'équipe n'est pas encore tout à fait choisie au moment où on se parle.
Donc, en ce moment, l'équipe a été nommée à l'interne et le dévoilement public se fera éventuellement lorsque toutes les procédures seront complétées.
D'accord, parfait. Donc, je suppose que les athlètes qui sont invités présentement, c'est des athlètes qui font partie à l'interne de l'équipe qui va participer aux Jeux de Paris.
C'est exact.
Le vélo, pour vous, c'est quoi?
Ah ben le vélo, en partant, c'est une passion. En fait, j'ai toujours affectionné ce sport, autant comme cycliste récréatif que cycliste compétitif, plus en vélo de montagne. Le vélo, pour moi, c'est l'expression même de la performance individuelle, surtout pour nos épreuves chronométriques sur la route ou sur la piste. Donc, c'est l'athlète, l'équipement qui est le vélo et la performance. Ultimement, le vélo, ça représente aussi la liberté, le fait de voyager à vélo, de se déplacer à vélo, de juste pouvoir contempler un paysage incroyable à l'extérieur sur son vélo. Je pense que pour moi, c'est le portrait complet de ce qui est mon idéal.
Vous êtes entraîneur de l'équipe nationale depuis 2009, puis en charge du programme canadien de paracyclisme depuis 2016. Est-ce que c'est un parcours qui correspond à ce que vous vous étiez imaginé comme entraîneur?
La réponse courte, c'est non.
Oui.
La réponse longue, c'est que c'est toujours un parcours, en fait. Hein. Puis le fait d'avoir eu la chance d'être déjà été un premier projet en 2006, comme je disais, là, mon background vient plus du vélo de montagne, donc c'est ce vers quoi je vais me diriger dans ma carrière d'entraîneur. Mais le fait de travailler avec des athlètes qui sont en situation de handicap, l'intervention avec eux, le type de problème qu'on a, c'est pas dire de problème, mais de solution qu'on a à trouver pour certaines limitations, m'a amené à vraiment me spécifier sur les athlètes avec un handicap. À nombreuses reprises, j'aurais pu faire le changement vers le Paralympique, je ne l'ai jamais fait. C'est une clientèle que j'aime beaucoup et avec laquelle je pense que j'ai un certain niveau de succès.
Mais à partir de quel moment dans votre parcours vous décidez A, d'être entraîneur, puis B, d'être entraîneur avec des personnes qui vivent avec un handicap?
En fait, dans mon parcours scolaire, j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Et à travers ce bac-là, j'ai eu droit à un stage au CNC avec une clientèle tout à fait générale dans toutes les disciplines cyclistes qui m'ont vraiment exposé à des premières aventures de coaching. Mon but, en fait, en étant aux études, c'est de devenir psychologue sportif. J'ai tellement apprécié le coaching à ce moment-là. Et de fil en aiguille, par des circonstances, j'ai eu l'occasion de devenir entraîneur-chef du CNCB déjà une vingtaine d'années. Puis rester accroché en fait dans le coaching parce que j'apprécie beaucoup ça. C'est un peu un amalgame de plein de différentes compétences avec évidemment l'athlète au centre. Donc c'est ce qui m'a amené à coacher. Puis encore là, par hasard, on a hébergé un groupe de paracyclistes en 2006 qui avait besoin d'un nouveau support local. Je me suis impliqué beaucoup avec eux. De fil en aiguille, le téléphone n'a pas sonné. J'ai eu des athlètes qui me contactaient pour les entraîner. Et c'est ce qui m'a fait revenir vers le paracyclisme en 2009. Comme je dis, j'ai pas un cahier de charge uniquement para. Je peux m'occuper de d'autres athlètes provenant de d'autres disciplines, mais j'affectionne particulièrement ce groupe-là.
Si vous aviez à vous décrire votre style d'entraîneur, qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est une bonne question. mon style, en fait, c'est... je suis très rationnel dans mon approche. Mais j'utilise beaucoup l'humour comme mode de communication. Donc, c'est vraiment un peu une double personnalité. Il y a vraiment des moments où on est très, très, très focus, très spécifique sur ce qu'on doit faire. Mais dès que l'exercice ou l'intervalle est terminé, tout de suite, c'est un mode de communication un peu plus léger. J'aime beaucoup travailler en équipe. Donc, que ce soit en impliquant l'athlète dans le processus de décision ou en ayant une équipe autour de moi qui me supporte pour pouvoir vraiment aller chercher l'ensemble des composantes de performance. Donc, je pense que ça résume assez bien mon style.
Oui, j'ai vu, je pense que c'est sur YouTube, j'ai vu un petit vidéo où vous étiez avec Patrick Desnoyers. Patrick est un cycliste, comment on dit ça, sur main, avec main?
Un cycliste à main,
à main.
Exact.
Et il mettait l'accent beaucoup sur l'humour dans vos relations.
Oui, effectivement. Pour moi, une de nos valeurs d'équipe, c'est une des miennes aussi, c'est que le plaisir doit être au centre de tout ce qu'on fait. Moi, personnellement, je n'ai pas de plaisir à faire quelque chose. Règle générale, je change, je fais autre chose. Donc, de pouvoir impliquer ça dans l'attitude de coaching, mais dans l'environnement d'équipe, pour moi, c'est une composante très importante de mon bien-être comme entraîneur. Donc, c'est ce que je m'assure de faire de façon toujours dosée, j'espère, en fait, de façon plutôt dosée, je devrais dire. J'essaie vraiment de garder cet aspect un peu plus léger-là qu'on peut avoir. Surtout dans des situations où le stress va être beaucoup plus élevé, la pression va être plus grande.
Ouais.
Mais toujours une petite pointe d'humour qui va se retrouver à travers différents commentaires pour toujours essayer de changer un peu l'atmosphère quand c'est trop lourd.
À Tokyo, lors des derniers Jeux paralympiques, le paracyclisme a rapporté 3 médailles au Canada sur un total de 21. Est-ce que vous pourriez nous situer le paracyclisme canadien dans le paracyclisme mondial à la veille des Jeux de 2024?
L'équipe canadienne en ce moment est une équipe composée d'un très petit nombre d'athlètes par rapport aux autres nations. Donc, en moyenne, en Coupe du Monde ou en Championnat du Monde, on va avoir une équipe d'environ 10 à 12 athlètes sélectionnés. Règle générale, pour les 2 derniers Jeux, on diminue l'équipe grandement. Cette année, vous voyez, on va être à 7 athlètes, 4 hommes et 3 femmes. Donc, notre quantité d'athlètes est faible, mais notre niveau de performance est élevé. La plupart des athlètes qui seront sur les lignes de départ à Paris ont une chance légitime de médaille pendant les épreuves. Donc, notre optique, ça a toujours été de viser un grand niveau de performance et non pas une équipe qui est volumineuse. Je dirais aussi qu'au Canada, en général, pour les sports para, ce qui est un grand challenge, c'est le recrutement de nouveaux athlètes. Déjà qu'en partant, le niveau de couverture que les sports para peuvent obtenir est faible au niveau médiatique. Je dirais qu'il est faible parce qu'avant, il était presque inexistant.
Oui.
Donc, tranquillement, pas vite, on nous voit de plus en plus dans les fils de nouvelles ou dans les pages d'actualité, ce qui est excellent. Mais ça n'a pas encore mené vers un niveau de recrutement qui est plus élevé. Donc, de ce fait-là, c'est toujours un peu plus difficile pour les sports para d'avoir une récurrence d'athlètes qui arrivent. Donc, on est un peu dépendant de la cohorte avec laquelle on travaille.
En terminant, ma dernière question. Ma prochaine entrevue lors de cette émission, ça va être de parler avec un de vos athlètes, Alexandre Hayward. Alors, présentez-nous Alexandre.
Alexandre, un chic type du Nouveau-Brunswick, ancien joueur de hockey. C'est comme ça acquis sa situation d'handicap. Quelqu'un qui est très analytique. Il a un background en ingénierie. Il est diplômé, en fait, il est ingénieur. Donc, très analytique, très autocritique sur ses performances. Par contre, encore une fois, une bonne capacité à juste être dans le moment présent, s'assurer que tout est fait de la meilleure façon possible pour se rendre à l'objectif. C'est aussi quelqu'un qui est nouveau dans le sport, ne fait du vélo que depuis, de mémoire, 2 ou 3 ans, donc en lien avec la COVID, qui a amené à commencer le vélo. Donc très, très nouveau dans le cyclisme, mais très établi dans les sports en général, nous vient du basket en fauteuil roulant. Et dans une situation de vie un peu différente, il saura vous l'expliquer mieux que moi, mais ses limitations actuelles font de lui un cas assez unique et son niveau de performance est assez élevé. Il vient toujours de remporter l'overall de la Coupe du Monde. Le terme français, ce serait plutôt de dire qu'il a gagné le plus grand nombre de points pour les 3 Coupes du Monde en Europe et en Australie cette année, donc les champions de la Coupe du Monde. Donc, de belles performances acquises cette année et beaucoup de beaux espoirs plus en avenir.
Bien, grand merci, Sébastien Travers, pour toutes ces informations-là. On va vous suivre avec grand plaisir lors des Jeux paralympiques à Paris, donc à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Alexandre Hayward est né le 4 mars 1997 au Nouveau-Brunswick. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il vivait avec l'énergie d'un jeune athlète. Il s'est cassé le cou pendant un match de hockey 3A. Cette année-là, il était considéré comme candidat au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bien qu'il puisse utiliser ses bras et ses jambes, ses quatre membres sont atteints. Après l'accident, il s'est d'abord tourné vers le basketball en fauteuil roulant et a joué pour le Nouveau-Brunswick aux Jeux d'hiver du Canada et pour l'équipe nationale junior dont il était le capitaine. Le paracyclisme était pour lui une forme d'entraînement transversal, mais il s'y est adonné de façon plus sérieuse pendant la pandémie. Il s'est éventuellement trouvé dans la mire de Para-Nouveau-Brunswick et de Cyclisme Canada. De 2022 à 2024, il a participé à de nombreuses compétitions internationales jusqu'à finir premier au contre-la-montre des derniers Para-Panaméricains à Santiago. Il semble bien avoir d'autres chapitres à écrire. Je parle maintenant avec Alexandre Hayward. Bonjour Alexandre.
Salut, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va très bien, en pleine forme. Qu'est-ce que ça fait un para-athlète possiblement olympique à 47 jours des Jeux?
Je vais être honnête, moi tout de suite, je me prépare, on est en train en camp d'entraînement à Beaumont, parce qu'il y a certains d'entre nous qui vont faire la piste et la route. Ça fait que avec le vélodrome ici, on est en train de faire des camps à peu près de 2 semaines de long à peu près à chaque mois, ça fait quelques mois. Ça fait qu'on est en train de finir un camp, puis ensuite, je pense que je vais retourner voir ma famille pour quelques semaines au Nouveau-Brunswick, juste pour décrocher un peu avant qu'on se lance dans la partie un peu plus intense.
D'accord. J'ai vu le nom de ton village au Nouveau-Brunswick, mais je me risque pas à le prononcer. Je vais te laisser le faire.
Oui, ça fait que moi, je viens de Quispamsis, Nouveau-Brunswick.
Quispamsis. OK.
Exact.
Vous avez 27 ans. Où est-ce que vous vous situez, selon vous, dans le paracyclisme mondial? Je sais que ça fait pas si longtemps que ça que vous faites du paracyclisme.
Dans les événements auxquels je passe plus de temps, je dirais, je suis quand même constamment... je pense qu'il fallait que je fasse une genre de moyenne, je dirais probablement entre 3 et 6e, là, dépendamment de la journée, puis de l'événement, puis tout ça.
Donc, c'est très impressionnant.
Bien, merci. Je dirais, dans la poursuite individuelle, qui est un événement de 3 km sur la piste, je suis probablement à peu près 3-6e. Ensuite, dans le contre-la-montre sur la route, je dirais que si j'ai une bonne journée, je pourrais être n'importe où de premier à, je sais pas, 5e peut-être.
Oui, oui, oui.
Puis là, la course sur route, après ça, c'est... Tu sais, je me sens comme si que je suis assez en forme pour finir un peu n'importe où là aussi, mais il y a beaucoup plus de stratégie. Puis là, ça vient plus au fait que j'ai un peu moins d'expérience que les autres. Ça fait que c'est vraiment... ça dépend de la course.
Je comprends. Vous jouiez au hockey. Vous étiez au niveau 3A au hockey au moment de votre accident. Je comprends donc que vous avez toujours été un athlète.
Oui, exactement. Ça a toujours joué un gros rôle dans ma vie. Ça fait que c'est sûr qu'après mon accident, je me suis lancé dans les sports para pas mal vite.
Oui, oui, oui. Mais juste avant qu'on parle de basketball et puis de paracyclisme, parlez-nous un peu de votre réadaptation. Comment vous avez vécu votre réadaptation?
Moi, juste pour vous donner une idée, mon accident est arrivé pendant un match de hockey, puis... la semaine après mon accident, le pire scénario qu'il m'avait donné, c'était d'être dans une chaise roulante électrique que je contrôlais avec ma bouche.
Oui, oui, oui.
Ça fait que j'ai commencé un peu de être complètement paralysé à partir des épaules. Puis ensuite, j'ai fait de la réhabilitation pour 6 mois au centre de réhabilitation à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Oui, oui.
Puis j'ai juste été chanceux assez de regagner un peu de sensation et de mouvement à chaque jour jusqu'à temps que je puisse sortir en marchant 6 mois plus tard. Ça fait que pour moi, là, les plus grosses choses, c'est ma sensation est pas normale à partir des épaules. Par exemple, si je voulais vous dire si l'eau est chaude ou froide, il faudrait vraiment, ou la température exacte de l'eau, il faudrait vraiment que je la mette genre sur ma joue.
Oui, oui, oui.
Ensuite, j'ai ce qui s'appelle de la spasticité ou du tonus, qui est un peu comme une raideur musculaire qui vient s'imposer à cause des dommages neurologiques.
Oui, oui, oui.
Ça fait que, c'est ça, mes mouvements lents sont quand même normaux et fluides, mais quand je commence à aller plus vite, on dirait que c'est ça a comme un air d'être comme, comment est-ce que je dirais ça, que je suis pas coordonné.
D'accord. Et vous, ça vous arrive jamais d'aller plus vite? Vous êtes dans des sports de vitesse, alors...
Oui, ça m'arrive tout le temps, dans le fond, chaque jour.
Oui, oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, votre catégorie MC3? M, ça doit être man, probablement.
Exactement. Ça fait que C, ça a rapport avec le vélo sur lequel on roule.
OK. Ça
fait que C, c'est un vélo régulier. Il y a aussi des vélos à main, des tandems et des tricycles.
Oui, oui, oui.
Ensuite, le chiffre, c'est c'est une catégorie de 1 à 5, 5 étant le plus habile, 1 étant le plus affecté. Et il donne un chiffre dépendamment de ce que le panneau de classifieur décide, comment affecté que t'es, mettons.
Je comprends. Et là, vous avez, par la suite, vous avez brillé au basketball en fauteuil roulant. Il y a eu la pandémie et finalement, vous avez tourné vers le paracyclisme.
Ouais. ça a commencé pour moi, c'est une façon de rester en forme pour le basketball en fauteuil roulant.
Oui, oui.
C'est sûr que les gymnases étaient fermés, puis on pouvait juste m'entraîner dehors. Même si je m'entraînais dehors, c'était pas assez. Ça fait que ça a commencé comme ça, puis...
Fait que vous avez un trop plein d'énergie, vous, en général.
Exact. Ça fait que... c'est ça. Là, j'ai comme tombé un peu en amour avec ça, puis je pense que la journée que j'ai réalisé que c'était probablement un sport pour moi, c'était que je suis allé sur une sortie en groupe, puis pour la première fois depuis mon accident, je faisais partie d'un groupe en faisant un sport quand même de haut calibre, que j'avais pas besoin de modification ou de, tu sais, qu'on m'attende ou qu'on change quoi que ce soit pour que je puisse participer, puis même que, tu sais, les gens qui me connaissaient pas savaient pas que j'avais eu un accident. Ça fait que c'était comme une sensation que j'avais jamais eue avant.
Bravo.
Ça fait que je me suis comme attaché un peu à ça, puis c'est ça. Là, ça nous amène aujourd'hui.
Oui, et aujourd'hui, encore là, je m'aperçois que vous avez un certain problème à faire des choix dans la vie, parce que vous faites du vélo sur route, vous semblez être particulièrement bon en contre-la-montre, et vous faites du vélo sur piste aussi. Avez-vous une préférence dans tout ça?
C'est sûr que pour moi, comme je pense que le vélo de route, c'est ce que j'aime le plus, juste parce que j'aime vraiment le sentiment genre d'aventure qu'on a quand on sort faire une randonnée dehors. Mais je pense que ce qui m'intéresse beaucoup sur la piste, c'est vraiment... C'est très, très calculé, puis on parle beaucoup de chiffres, puis de puissance, puis de fréquence cardiaque, puis toutes ces choses-là. Puis je pense que ça vient jouer un peu dans mon... Moi, j'ai un bac en génie mécanique.
Oui.
Ça fait que, tu sais, je suis un gars de chiffres. Ça fait que je pense que j'aime... Dans le fond, je trouve que les deux jouent un peu un différent rôle.
D'accord.
Si j'avais à juste en faire un, je dirais probablement la route, mais j'aime les deux.
Est-ce que c'est... C'est important d'avoir une médaille à Paris ou c'est surtout une étape en fonction peut-être de Los Angeles dans 4 ans?
Moi, d'après l'année que je viens d'avoir, en me comparant un peu avec les autres, je pense que si j'étais pour avoir une bonne journée, je pense que c'est quand même réaliste de penser peut-être que je pourrais revenir avec une médaille.
Mm-hmm.
Mais pour moi, vraiment, juste l'expérience de pouvoir participer, je pense que ça va être bien assez.
Excellent. En terminant, j'ai posé le même genre de question à votre entraîneur, à Sébastien Travers, tantôt. Parlez-nous de lui, en terminant, en quelques mots.
Nos personnalités se ressemblent beaucoup. je dirais que notre sens d'humour se ressemble beaucoup, nos passions se ressemblent beaucoup. Ça fait que non seulement que je trouve qu'il est un très bon entraîneur, mais on dirait qu'on s'adonne très bien à l'extérieur des sports aussi. Ça fait que c'est une relation qui a été vraiment, vraiment facile. Ça fait que je pense que ça joue un gros rôle dans comment vite que j'ai été capable de m'améliorer dans la dernière année et demie.
Fantastique. Alexandre, je vous souhaite de passer de très beaux Jeux paralympiques à Paris, peu importe, médaille ou pas. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir là-bas et c'est sûr qu'on va vous suivre ici.
Merci beaucoup, j'apprécie que vous ayez pris le temps.
On pourra suivre la progression d'Alexandre Hayward lors de la poursuite 3000 mètres C3 sur piste à 13h30 le 30 août. La finale de cette compétition aura lieu à la fin de cet après-midi. Le contre-la-montre individuel C3 sur route aura lieu le 4 septembre et la course sur route C1-C3 aura lieu le dernier jour des Jeux, le 7 septembre. À surveiller aussi Charles Moreau en vélo à main H3. Il courra en contre-la-montre le 4 septembre et en course sur route le 5. Rappelons que du 28 août au 8 septembre, Geneviève Tardif et Kevin Breton seront les chefs d'antenne des Jeux paralympiques de Paris 2024. Ils pourront compter sur l'ex-paranageur Benoît Huot, Roselyne Filion et Jean Saint-Onge pour nous faire vivre les Jeux paralympiques en direct de Paris. Une sélection d'épreuves sera offerte en intégralité sur ICI-Tout.tv, en direct et sur demande. À la télé, ICI Télé diffusera 56 heures de programmation paralympique. La couverture quotidienne sera présentée en direct de 15h à 17h du lundi au samedi et de 14h à 17h le dimanche 1er et le samedi 7 septembre. En soirée, Jean Saint-Onge animera une émission sur le terrain du mardi au vendredi à 23h05 et du samedi au lundi à 22h30. Les cérémonies d'ouverture du 28 août et de clôture du 8 septembre seront présentées en direct à 13h30 et rediffusées en fin de soirée. Je remercie particulièrement Mathieu Tessier à la technique et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Je m'appelle Yvan Deslauriers. J'ai été impliqué à la recherche et à l'animation. En route vers les Paralympiques est une série de 4 émissions conçues et réalisées par Canal M, la voie de l'inclusion.